بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, le dimanche, le 2 du mois Dhul Qa'da de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 19 avril 2026. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette rencontre hebdomadaire dans laquelle nous lisons ensemble ces 6 passages, ces 6 événements choisis de la biographie de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, qui est décédé en l'an 1206 de l'Hégire. Et dans notre dernière rencontre, nous avons parlé de ce 5e passage qu'il a choisi, qui concerne un événement majeur dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam et pour toute la religion de l'islam, qui est son émigration alayhi salatu wassalam avec les croyants. Ils ont quitté la terre de mécréance, Mecca, pour se rendre à la terre de l'islam, Médine, avant la conquête de Mecca. Et nous avons vu quelques enseignements à tirer de ce récit magnifique et important dans notre religion. Et le dernier point que l'auteur, rahimallah, a mentionné dans ce passage, c'est une parole d'un grand imam qui est l'imam al-Hassan al-Basri, qui consiste à quitter la terre de la mécréance vers la terre de l'islam. Et l'auteur, à la fin de ce passage, il a mentionné une parole de l'imam al-Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans laquelle il dit « ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال وذلك أن الله تعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. » Donc c'est une très belle citation qui comporte beaucoup de sens. Il dit, d'une manière résumée, il dit « La foi, c'est pas avec l'ornement. La foi, c'est pas avec l'ornement ni avec les faux espoirs. Mais la foi, c'est ce qui s'installe dans le cœur et qui est validé et approuvé par les actes. Car Allah dit « Ilayhi yas'adu al-kalimu al-tayyibu wal-amalu al-salihu yarfa'u » C'est vers lui que monte la bonne parole. Quant à l'œuvre du bien, il l'élève bien haut. Donc, ce que nous comprenons de cette parole, l'importance de l'œuvre et de l'acte. Et il ne suffit pas en islam d'avoir des belles paroles et de répéter des belles paroles. Lakin, il faut approuver et valider nos paroles par des actes réels. C'est pour ça, comme vous savez mes frères, dans la définition de la foi chez Ahl Sunna wal Jama'a, ils disent que la foi qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa 'amalun bil arkan yazidu bi ta'ati ar-rahman wa yanqusu bi ta'ati ash-shaytan. C'est pour ça la définition de la foi chez Al-Sunnah wal-Jama'a, c'est pas uniquement une croyance dans le cœur. La foi, c'est des croyances avec le cœur, des paroles qu'on prononce, comme la parole « La ilaha illallah » et également des actes que nous accomplissons avec nos membres. Et cette foi, elle augmente et elle diminue. Elle augmente avec l'adoration et l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle diminue avec l'obéissance au shaitan. car toute obéissance au shaitan est une désobéissance à Allah. Et toute désobéissance au shaitan est une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est avec ça qu'il a terminé ce passage, pour nous montrer qu'il ne suffit pas de dire « La ilaha illallah » sans que ce soit accompagné d'actes et d'œuvres. Celui qui dit « La ilaha illallah » qui signifie que nulle divinité ne mérite d'être adorée, excepté Allah subhanahu wa ta'ala, il doit, dans sa pratique également, après avoir cru que le seul qui mérite l'adoration, c'est Allah, et que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est caduque, il doit valider tout ça en vouant toute son adoration à Allah exclusivement. Il ne doit pas sacrifier ni immoler une bête que pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي De la même manière qu'il ne doit faire la salat que pour Allah. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايِ وَمَمَاتِيَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهِ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ Donc, tous nos actes d'adoration doivent être voués exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est la réalité de ce que c'est l'islam. L'islam, ce n'est pas simplement des paroles avec la langue. L'islam, c'est des croyances, des paroles et des actes. La langue, le cœur et les membres. Ensuite, il est passé au dernier passage, au dernier événement choisi de la biographie du prophète, alayhi salam, dans cette risala, dans lequel il va parler d'un autre événement important dans l'histoire de notre religion qui s'est déroulée après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yannick, qu'est-ce que tu penses si je sors et je réintègre rapidement? Là, ça me perturbe un petit peu. L'écran, il bouge tout le temps. Mashallah, c'est mieux comme ça. Barakallahu fik. Taïb, ensuite, il a cité le dernier passage, le dernier événement choisi de la biographie du prophète, alayhi salatu wasalam, comme j'ai dit, qui concerne un événement qui s'est déroulé après la mort du prophète, alayhi salatu wasalam. Le prophète, alayhi salatu wasalam, après sa mort, il y a eu des changements chez certaines tribus arabes autour de Médine et de Mecca qui ont apostasié. Et les causes de ces apostasies étaient différentes. Certains ont eu une mauvaise interprétation du verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ » Donc, certains ont refusé d'acquitter la zakat après la mort du prophète alayhi salatu wasalam. Vous savez que les tribus regroupaient leur zakat, ils l'envoyaient au prophète alayhi salatu wasalam et c'est lui qui répartissait cette zakat entre les démunis et les différentes catégories de ceux qui méritent la zakat. Mais après la mort du prophète alayhi salatu wasalam, ils ont refusé de le faire. Ils ont refusé de le faire quand c'était Abu Bakr radiallahu anhu, le calife. Certains ont eu une mauvaise interprétation du verset. Donc Allah il dit "Khudh min amwalihim", prends de leurs biens. Ils ont dit le prophète alayhi salatu wasalam est décédé. Donc il n'y a personne pour prendre de nos biens, donc on ne donne plus la zakat. Mais ce n'était pas la seule cause de ces apostasies. Également, après la mort du prophète, plusieurs personnes ont prétendu être des prophètes, qui sont des faux prophètes. Car comme vous savez, mes frères, parmi les points qu'aucun musulman n'est excusé d'ignorer, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes. Il y a seulement quelques jours, quelqu'un m'a envoyé un homme qui prétend être un prophète au Togo. Il n'y a plus de prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le dernier des prophètes. Il a dit à son cousin Ali radiallahu anhu, il lui a dit « Anta minni kaharuna min Moussa, ghayra annahu la nabiyya ba'di. » Il lui a dit « T'es pour moi comme Haroun était pour Moussa. Par contre, il n'y a plus de prophète après moi. » Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, « Khatamul anbiya wal mursalin. » Le sceau est le dernier des prophètes et messagers. Et toute personne qui prétend être un prophète après lui, c'est un prophète de Iblis et de Shaitan. C'est pour ça, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, ce grand savant parmi les compagnons, quand on lui a dit que Musaylim al-Kadhab prétendait recevoir la révélation, il leur a dit c'est vrai. Et les gens étaient étonnés. Comment ça, c'est vrai? Al-Nabi, c'est le dernier des prophètes. Il leur a dit c'est vrai, il reçoit la révélation de Shaitan. Et non pas la révélation divine de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des prophètes. Il y a plusieurs personnes qui ont prétendu être des prophètes. Parmi eux, un homme qui s'appelait Al-Aswad Al-Ansi, qui était au Yémen. Juste après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prétendu qu'il a reçu la révélation et qu'il est le successeur du prophète alayhi sallatu wassalam. Une autre femme a prétendu également être une prophète, qui s'appelle Sujah bintul Harithi al-Tamimiyya. Et bien évidemment, avec l'Aswad al-Ansi, sa tribu l'ont suivi. Ou certains parmi eux, pas tous, de toute manière. Sujah al-Tamimiyya également a été suivi par plusieurs de sa tribu. C'est pour ça, il faut qu'on comprenne que l'islam, c'est pas une affaire tribale. L'islam, c'est pas des coutumes, c'est pas des traditions. L'islam, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de suivre la vérité. Et non pas les coutumes de notre pays, si jamais ils vont à l'encontre de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. La religion de l'islam approuve les coutumes de chaque peuple dans leur pays, sauf s'ils s'opposent à des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, elle a été suivie également par certains de sa tribu. Et un autre homme a prétendu être un prophète qui s'appelle Tulayha ibn Khuwaylid al-Asadi. Et à son tour, il a été suivi par plusieurs de Banu Asad et de Ratafan. Et le dernier de ces hommes, c'est le plus connu, le plus grand menteur d'entre eux. C'est tous des menteurs et des imposteurs, mais le plus grand menteur, c'est Musaylima ibn Habib al-Hanafi. Musaylimatul Kadhab. Et celui-là, il a prétendu être un prophète pendant le vivant de Nabi alayhi salam. Pendant le vivant du prophète alayhi salam, il lui a demandé de partager avec lui la prophétie et de faire de lui un héritier. Et Nabi alayhi salam a refusé. Il lui a dit, ça, c'est pas quelque chose qui m'appartient. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui désigne qui il veut comme prophète. Et donc, après la mort du prophète alayhi salam, tous ces hommes, avec Sujah, cette femme également, et en plus de l'ambiguïté que certains tribus ont eue au niveau de la zakat, tous ont décidé de quitter l'islam et de suivre ces imposteurs. Et c'était Abu Bakr radiallahu anhu, le calife, As-Siddiq radiallahu anhu wa arda. As-Siddiq qui a été la cause de la fermeté des musulmans sur leur religion après la mort du prophète. Car comme vous savez, il y a même des compagnons qui étaient perturbés suite à la mort du prophète. Et vous connaissez tous l'histoire quand Abu Bakr est venu et il leur a récité le verset « Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul » أَفَإِمْ مَاتَ أَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. Mohammed s.a.w. n'est qu'un prophète, comme ses frères parmi les prophètes qui sont passés avant lui. Moussa a.s., Isa a.s., Nuh a.s., Ibrahim a.s., et ainsi de suite. le croyant doit rester ferme sur sa religion. Celui qui adore le prophète alayhi sallam, le prophète alayhi sallam n'est qu'un homme qui est décédé et qui a rejoint son Seigneur. Et celui qui adore Allah, Allah, il est le vivant éternel. Et suite à cela, il y a eu la deuxième épreuve qui est ces apostats. Et Abu Bakr radiallahu anhu a montré, a fait preuve d'une grande fermeté lors de ces troubles et de ces tentations. Et il a combattu toutes ces tribus qui ont profité dans un premier temps de l'armée que le Nabi Aïssa avait décidé d'envoyer en Syrie avant sa mort, sur laquelle il a placé Oussama ibn Zayd, alors qu'il n'avait que 18 ans, de l'envoyer en Syrie pour combattre les Romains. Et ils ont profité de la sortie de cette grande armée pour attaquer Médine. Effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont attaqué Médine et Abu Bakr radiallahu anhu les a repoussés. Ils sont repartis avec une défaite. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Abu Bakr radiallahu anhu, après le retour de l'armée de Usama, il a attaqué toutes ses tribus. Walhamdulillah, elles sont toutes revenues dans l'islam. Et tous ces apostats ont été tués. À leur tête, Musaylima al-Kadhab. Donc, c'est de cet événement que l'auteur, rahimahullah, souhaite nous parler dans ce sixième événement. L'apostasie de ces gens qui, pourtant, bien évidemment, après la fin de ces batailles de l'apostasie qui ont duré plus d'une année, les musulmans se sont libérés pour les conquêtes. Et il y a eu la conquête de l'Irak, la conquête de la Syrie, Cham. Cham, ce n'est pas seulement la Syrie, c'est la Syrie, le Liban, la Jordanie et la Palestine. Et également, il y a eu d'autres événements importants suite à cela, comme le fait de regrouper le Coran dans un seul livre. Car le Coran, comme vous savez, il était écrit pendant le vivant de Nabi alayhi sallam, mais il n'était pas rassemblé dans un seul livre. Et c'est Abu Bakr radiallahu anhu qui a pris l'initiative de regrouper le Coran dans un seul livre, car il a vu que beaucoup de ceux qui mémorisaient le Coran sont décédés et sont tombés martyrs, notamment dans la bataille la plus difficile qu'ils ont menée, c'est la bataille contre la tribu de Musaylima al-Kadhab, les Banu Hanifa. Donc il a dit, rahimahullah, qissatul ridda, l'histoire de l'apostasie. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فمن سمعها لم يبق في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشيطان الذي يسمون الذين يسمون العلماء. Donc celui qui apprend cette histoire de l'apostasie et de ces guerres de l'apostasie qu'ont mené les compagnons contre ces tribus jusqu'à revenir dans l'islam par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il comprendra un point fondamental, que l'islam, c'est pas seulement des paroles que nous répétons. Le musulman, c'est celui qui accepte toute la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui accepte toute la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui la met en pratique selon sa capacité. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Mais il n'est pas question de rejeter quelque chose de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. C'est pour ça que les compagnons n'ont pas divergé au sujet du combat de ces gens pourtant qui disaient la ilaha illallah et qui faisaient la salat. Mais seulement ils ont refusé de sortir la zakat. Et Abu Bakr, il a dit sa parole célèbre, il a dit « Wallahi la uqatilanna man farraqa bayna salati wa zakat » Il a dit par Allah, je combattrai celui qui veut séparer la salat de la zakat. Alors que la salat et la zakat sont inséparables. Les deux sont des piliers de l'islam. Et il faut qu'on comprenne très bien ce que signifie que ce soit des piliers de l'islam. C'est des fondements importants dans la religion de l'islam. Zakat que malheureusement beaucoup de musulmans ne sortent pas aujourd'hui à notre époque. Beaucoup de musulmans ne la sortent pas. Et parmi ceux qui la sortent, ils ne la sortent pas avec science. J'ai rencontré plusieurs personnes qui pensent que zakat, c'est de donner une sadaqa de temps en temps. Az-zakat, c'est un montant déterminé que tu dois sortir sur des biens bien déterminés, une fois dans l'année, et le donner à une des 8 catégories qu'Allah a mentionnées dans le Coran. Donc tout est déterminé par rapport à la zakat. C'est un pilier de l'islam. Amma sadaqa, l'aumône, surrogatoire, tu donnes ce que tu veux, quand tu veux, à qui tu veux. Mais zakat, c'est pas pareil. Zakat, par exemple, si on prend zakat par rapport au salaire, par rapport aux économies et l'argent, c'est 2,5% que nous devons sortir une fois par an pour celui qui a atteint le seuil de la zakat et qui a gardé ce seuil durant un an dans le calendrier de l'égir. Donc zakat, c'est quelque chose que sortent les riches, ceux qui ont des économies qu'ils gardent durant toute une année dans le calendrier de l'égir. Ils doivent la donner à une des 8 catégories qu'Allah a mentionnées dans le Coran, comme les pauvres et les nécessiteux, ceux qui n'ont rien, ou ceux qui ont quelque chose mais qui ne leur suffit pas. On leur donne le complément pour arriver à leur suffisance. Donc c'est ce que nous allons voir, inshallah ta'ala, dans notre prochaine rencontre, cette histoire d'une manière plus détaillée. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khayran, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.